quatrième et dernier temps de notre série sur la réinvention du passé. Pendant 3 jours, nous vous avons parlé de la Grèce. Aujourd'hui, le débat porte sur la réinvention des traditions dans le reste de l'Europe. Après le dernier épisode pour la saison de notre feuilleton du jeudi, la fabrique de l'histoire scolaire, nous vous proposons de réfléchir à la façon dont les nations réinventent continuellement des traditions locales ou même nationales. Nous le ferons en compagnie d'Émilie Maria-Roy, elle est ethnologue, docteur de l'école des hautes études en sciences sociales, elle enseigne l'ethnologie à l'université de Tours et spécialiste en particulier de l'Islande. Nous aurons avec nous en duplex depuis les studios de Radio France à Nantes, que nous remercions de l'avoir accueilli, Alfonsina Bellio, elle est résidente à l'Institut d'études avancées de Nantes, chercheur associé au GSRL, groupe Société Religion Laïcité de Paris. Elle est enseignante à l'Université de Bordeaux. Elle est spécialiste de la Calabre. Et puis, depuis Aix, où ils se trouvent tous les deux, Chloé Rosati est chercheur associé au LAPCOS, laboratoire d'anthropologie de cognition sociale à l'Université de Côte d'Azur à Nice. Elle est spécialiste de Grasse et de la réinvention des traditions dans cette ville, donc spécialiste des parfums. On en parlera avec elle tout à l'heure. Et à côté d'elle, il y a Laurent-Sébastien Fournier, en duplex depuis Aix. Il est maître de conférence en anthropologie à l'université d'Aix-Marseille. Il a travaillé sur les traditions à la fois en Provence, mais également en Bretagne, où il a longtemps enseigné. Et puis, nous n'oublions pas que cette journée de France Culture est destinée à défendre le livre, la lecture et le travail des libraires. Et nous recevrons en toute fin d'émission Clio Mavroidakos. Elle est rédactrice en chef d'une revue qui s'appelle Desmos, Le Lien. Et elle est aussi, elle tient la librairie consacrée à la Grèce, à Paris. On en parlera avec elle à la toute fin de cette émission. Mais tout de suite, je vous l'ai promis, un nouvel épisode, le numéro 34 de notre feuilleton La Fabrique de l'histoire scolaire, préparée par Séverine Attard et Véronique Samouilov.
Charlemagne, fils de Pépère le Bref, 1668-814, les rois fainéants et les maires d'Austrasie.
L'état de Saint-Empire, oh, tout est prévu.
Je parle à des gens qui font semblant de m'écouter, semblant de me regarder. Je suis là, vous me voyez?
Des dates, c'est un pyro, tout est prévu.
Est-ce que vous me voyez?
La fabrique de l'histoire scolaire.
Vous m'écoutez, s'il vous plaît?
Faut pas que ce soit un cours. L'histoire, il faut pas l'apprendre, il faut la comprendre.
Je vais interroger quelqu'un sur la leçon qu'il y avait à apprendre pour aujourd'hui.
À travers le projet européen Convoi 77, qui se donne pour objectif de sortir de l'anonymat les déportés de ce dernier convoi de Drancy vers Auschwitz en juillet 1944, les élèves de première de Sylvain Boulouk s'initient à la recherche historique. À l'aide de documents d'archives, comme des photos, des registres ou des listes de noms, ils doivent reconstituer des biographies d'enfants déportés.
En fait, on a un problème parce que sur les documents que vous avez mis au tableau, on n'a pas les mêmes dates que sur un site qui parle de la famille Corman.
Le site Convoi 77.
Ouais.
Nous, on a que le père, il est arrêté le 27 mars. Et toi, tu as le...
Ils sont arrêtés le 14 juillet 1942.
Du coup, il y a des incohérences. Parce qu'on dit qu'il est tué le 21 mai. Du coup, c'est quelle date qu'on doit choisir?
Non, on ne fait pas la moyenne des deux.
Surtout pas.
On a les prénoms des parents.
Cox et Rose.
Rose.
Isaac, mais c'est Hitchcock en.
Hitchcock. Je vous avais donné un autre site, normalement.
J'y suis allée.
Sur un téléphone portable, je ne suis pas sûre qu'on arrive réellement à voir la liste complète.
Bah, le problème, c'est qu'en fait, il y en avait trop et j'ai réussi qu'à voir Jacqueline, sa sœur.
D'accord.
En fait, de...
Oui, il y a énormément de Corman.
Il y a le père, il y a sa sœur.
Il y a Hitchcock. Donc, il est bien né, vous avez bien, le 15 juin 1917 à Minsk. Alors, la date de déportation, normalement, c'est quelques jours avant. Il est très rare que...
Parce que nous, on a déporté le 27 mars et assassiné le 21 mai.
Oui.
Et pour la mère, on n'a pas sa date de déportation, mais on sait qu'elle est assassinée le 14 février 1943.
Oui, alors, il faudrait retrouver le... le convoi dans lequel elle était, et ça je ne l'ai pas comme ça, il faut que j'aille chercher dans un autre document qui est la liste complète des convois qu'avait établi l'avocat Serge Klarsfeld. Il faut aller chercher dans la liste des documents pour savoir dans quel convoi elle est, pour savoir quand elle part de Drancy pour arriver à...
On avait écrit que...
Il est mort le 21 mai 1942.
Ah, donc c'est moi qui avais raison.
Et vous, Sylvain Bolouk, comment ça s'est passé au niveau du ministère de l'Éducation nationale, justement, pour accepter, enfin, en tous les cas, entreprendre ce travail avec vos élèves?
En fait, ça a commencé, c'est une expérience pédagogique qui a commencé l'année dernière. L'inspection académique cherchait des enseignants volontaires pour participer à ce projet, donc je me suis porté volontaire. Donc les élèves étaient allés, j'avais emmené mes élèves donc voir ce qu'était la cité de la Muette à Drancy, se rendre également au mémorial de la Shoah, et on avait commencé à travailler sur une enfant en particulier. Mais le problème, c'est que le projet a commencé en toute fin d'année, donc on a eu très très peu de temps pour commencer à rédiger réellement une biographie. Donc j'ai poursuivi ce projet cette année, et là on a, avec une année, sur une année complète, j'avais le temps de gérer l'ensemble du processus rédactionnel qu'on peut poursuivre jusqu'à la fin de l'année, tout en ayant en même temps réussi à conduire le programme à peu près.
Oui, parce que là, c'est vrai que c'est des élèves de première, et du coup, c'est vrai que bon, vous avez peut-être moins de contraintes de programme, mais il y a quand même un programme à suivre, et vous ne faites pas que la Seconde Guerre mondiale et la Shoah. Alors,
l'avantage des premières, c'est que c'est peut-être la seule classe en histoire géo avec la seconde où on a un peu plus de temps, on peut choisir l'organisation générale, réduire peut-être certains enseignements, faire des choix en fait. Puis on a, il y a aussi toutes les heures d'éducation morale et civique qui peuvent être réinvesties sur, puisqu'il y a un certain nombre d'items qui sont en correspondance entre le programme d'histoire géo, la Seconde Guerre mondiale. Donc on peut travailler sur un certain nombre de points qui permettent d'utiliser ce temps pour le programme.
Quand c'est pour le correspondant, ça correspond à quoi? Parce qu'on... Alors,
le correspondant, c'est le responsable. En fait, c'est la personne qui va s'occuper de l'enfant qui n'a plus de parents. Donc c'est un peu le tuteur et en même temps la personne de l'UGIF, donc de l'Union Générale des Israélites de France, qui va servir de référent pour cet enfant. Voilà.
Et on a aucune information sur après, enfin on a tout sur avant le convoi 77, mais on n'a aucune information sur le convoi 77.
Après le convoi 77, ça dure 5 jours et au bout du 5e jour, ils arrivent à Auschwitz et ils sont exterminés. Donc on sait que la date du départ, c'est qu'ils font 5 jours en train et qu'à la fin de ces 5 jours en train, ils meurent. Ils arrivent sur la rampe, c'est des enfants, donc ils sont envoyés directement dans les chambres à gaz et assassinés juste après. Juste une seconde. On se voit jeudi, on continue jeudi. Si vous avez le temps, vous regardez chez vous pour avoir les derniers documents, enfin, que tout soit à peu près prêt, pour qu'on puisse avoir des notices à peu près rédigées, qu'après on puisse envoyer au site et que ce soit mis en ligne relativement rapidement. D'accord ? À jeudi.
À jeudi, donc, pas ce jeudi-là, on va attendre 2 semaines, plutôt 2 mois, pour pouvoir retrouver ce feuilleton donc préparé par Séverine Yattard, à la prise de son aujourd'hui Éric Damaggio, et à la réalisation Véronique Samouilov, à propos de ce convoi 77 dont parlaient les lycéens du lycée Gustave Eiffel de Rueil-Malmaison avec leur professeur Sylvain Bolouk. Une tarentelle de Tchaïkovski quand le 19e siècle réinventait les musiques traditionnelles. Bonjour à vous, Émilie Maria Roy.
Bonjour.
Bonjour à vous, donc depuis Nantes, Alphonsine Abellio.
Bonjour.
Bonjour à Chloé Rosati et à Laurent-Sébastien Fournier depuis les studios de Radio France à Aix. Bonjour.
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 Alors, on peut peut-être commencer pour rappeler à nos auditeurs que cette émission s'appelle La Fabrique de l'Histoire, puisqu'il y a maintenant près de 20 ans, était publié un livre qui s'appelait La Fabrique des Héros, qu'il était dirigé entre autres par Pierre Sanslivre et par Daniel Fabre, récemment disparu, des anthropologues et des ethnologues qui réfléchissaient à la façon dont les nations s'étaient dotées de héros pour pouvoir se donner des personnages tutélaires. Et nous allons donc réfléchir pendant cette émission conclusive de notre série sur la réinvention du passé, à propos donc de l'Europe, nous allons réfléchir à différents exemples de réinvention du passé. Laurent-Sébastien Fournier, ses travaux, aussi bien d'ailleurs que les travaux donc de Eric Hobsbawm et Terence Ranger, par exemple, sur l'invention des traditions, qui donc datent du milieu des années 80, sont des travaux qui sont un peu fondateurs pour réfléchir à cette question justement du rapport au passé des nations, mais aussi des communautés, qu'elles soient régionales ou communales.
Et ce sont des travaux très importants parce qu'ils ont permis un rapprochement entre l'ethnologie et l'histoire. L'histoire avait déjà commencé à se rapprocher de l'anthropologie, de l'ethnologie dans les années 70 avec le courant de la nouvelle histoire. Nora, dans les lieux de mémoire, parle aussi de ce type de problématique. Mmh. Et à un moment donné, dans les années 80, autour de la formalisation de la notion d'invention des traditions par Hobsbawm et Ranger, quelque chose se passe là qui permet réellement de travailler au croisement de l'anthropologie et de l'histoire. Et Fabre, ensuite, avec d'autres, porte ça. Vous citez La Fabrique des Héros, mais il y a aussi L'Europe entre culture et nation, dans la même collection, quelques années plus tôt.
Ou Une histoire à soi, également, qui était...
Une histoire à soi. Oui, donc là, il y a toute une série de publications qui permettent réellement de construire ce champ d'études de la réinvention des traditions après que la notion même d'invention des traditions avait été formalisée dans les années 80.
Oui, sur ce point, Émilie Marrière-Roy, il y a une vraie évolution, pourrait-on dire, depuis le milieu des années 80 sur ces questions d'invention de tradition et la façon dont on regarde, disons, une sorte de dynamique de réinvention permanente des traditions, parce qu'on s'est souvent intéressé au 19e siècle qui aurait figé des traditions ou qui les aurait inventées au moment des nationalismes du milieu du 19e siècle. Et puis ensuite, avec Ranger et Hobsbawm, on a réfléchi à ces questions-là dans les années 80. Mais aujourd'hui, on s'aperçoit que tout cela, c'est une réinvention permanente, pourrait-on dire.
Oui, c'est un mouvement permanent, c'est complètement incessant. C'est, il y a une véritable ébullition autour justement de cette question de création des traditions. Et ce qui est intéressant à l'heure actuelle, c'est qu'en anthropologie, on aborde aussi cette question non pas d'un point de vue descendant, mais aussi d'un point de vue ascendant, c'est-à-dire qu'on va voir, on va étudier comment les différents groupes perçoivent ce qui a de la valeur et ce qui est digne ce qui est la valeur qui est digne d'être véhiculée et que ça
et
suscite
transmise.
Des rapports de force.
Oui.
Voilà, par des groupes, par des associations et c'est justement ce qui est intéressant, ce sont ces dynamiques associatives et à l'échelon régional, à l'échelon national qui mettent en évidence finalement à la fois qui révèlent certains points de convergence, mais aussi des aspects de conflit, beaucoup plus conflictuels, beaucoup plus délicats, qui relèvent plus de l'intime, finalement, et de l'intimité de certaines communautés. Donc voilà, c'est toute cette diversité, finalement, dans les pratiques et les représentations que l'anthropologie se donne pour mission aujourd'hui d'étudier.
Oui, et par exemple, votre terrain, c'est l'Islande. Vous travaillez sur les milieux de la pêche en Islande.
Oui.
Ces questions de tension, justement, et de réinvention permanente, vous les avez justement perçues à l'intérieur de votre terrain islandais, en l'occurrence, Émilie Marrière-Roy.
Oui, absolument. Et alors, je vais juste simplement vous dire que je ne suis pas spécialiste des traditions, mais d'une manière ou d'une autre, la question
vous
de la tradition,
vous y êtes confrontée.
Elle est tout à fait, elle est quotidienne, même pour la plupart des gens. Alors, en Islande, ce qui suscite justement ces créations ou réinventions ou recompositions de traditions en lien avec le milieu maritime, c'est beaucoup lié à l'exode, d'abord à l'exode rural, et à cette perte de racines que les Islandais vivent un petit peu comme un arrachement. Et donc, il se donne pour, disons, pour objectif de recréer en milieu urbain des traditions à des moments donnés de l'année, hein, selon un cycle calendaire bien défini, autour de prises de repas avec des mets, donc des produits et des produits dits locaux. Mais aussi, c'est lié, cette réinvention de tradition, à l'histoire et au contexte politique et social de l'Islande, et notamment à la question de la privatisation de l'accès aux ressources qui a suscité des ruptures au niveau national, qui a mis des communautés maritimes et littorales en grande difficulté. Et justement, la résistance et les pratiques de résistance des pêcheurs artisans pour la captation justement de quotas de pêche, ça a suscité un nouvel engouement pour des techniques de pêche qui étaient
anciennes.
Relativement anciennes, qui étaient rester quand même, je pense à la, je parle là de la pêche à la palangre de fond.
Palangre de fond, voilà, en particulier pêche, pour le requin.
Voilà, pêche à la ligne qui a vraiment la cote en plus, parce que justement, c'est une pêche qui est considérée telle qu'elle est perçue par les habitants, par les Islandais comme inoffensive. Et puis c'est une pêche qui est perçue justement comme, eh bien, une emblème des pêcheurs artisans sur leur petite embarcation, justement, en contraste avec ces énormes chalutiers-usines. Et donc voilà, c'est comme ça que la pêche à la palangre a retrouvé un nouveau souffle et une deuxième vie. Finalement, oui. Et qu'elle suscite de nouvelles images.
Alphonsine Abellio, vous êtes spécialiste de la Calabre, dont vous êtes d'ailleurs originaire. Vous travaillez donc à l'Institut d'études avancées de Nantes, mais aussi vous êtes enseignante à l'Université de Bordeaux. Et vous êtes intéressée à des réinventions de traditions très récentes. Et vous expliquez par exemple que dans certains villages de Calabre, eh bien, on a fait glisser, par exemple, des fêtes traditionnelles qui se déroulaient l'hiver. On les a fait glisser l'été parce que l'été, il y a les touristes, parce que l'été, il y a les émigrants qui ont quitté la Calabre, qui reviennent dans leurs maisons de campagne ou les maisons d'origine, et qu'à partir de ce moment-là, eh bien, les fêtes traditionnelles qui avaient lieu à d'autres moments de l'année, on a pu parfois les faire glisser pendant le mois d'août en particulier, ou le mois de juillet, mais aussi on a pu inventer un palio qui n'existait pas dans un village de Calabre, parce que cela avait du succès à Sienne ou ailleurs.
Oui, tout à fait. En fait, pour comprendre le mouvement contemporain des fêtes ou en général les formes de réinvention ou recomposition des traditions à Calabre, il faut bien considérer l'histoire récente de cette région. Mmh. D'un côté, la diaspora était fondamentale, donc les retours des immigrés, surtout les immigrés outre-océan aux États-Unis, en Argentine, qui revenaient à partir des années 1950-60, qui se sont réinstallés en Calabre, apportant un énorme changement social. Et de l'autre côté, la faillite du rêve industriel, ce que j'appelle la période positiviste pour cette région, parce que à un moment donné, on avait créé des pôles industriels en Calabre, notamment le pôle chimique de Crotone, par exemple. Et on pensait de donner à cette région une identité industrielle nouvelle qui n'avait pas de lien avec tout ce qui se passait avant l'unité de l'Italie. Et à un moment donné, ce rêve industriel dans les années 1980 rentre en crise. Donc, tous ces mouvements font que la région traverse à présent un véritable tournant économique, culturel. Donc, la nécessité d'un ancrage qu'on retrouve parfois dans ce qu'on appelle le traditionnel. Mais en fait, c'est une offre de traditionnel qui est à la fois poussée par des institutions comme des mairies, comme même la région Calabre, la région même, dans son projet de promotion touristique. Mais de l'autre côté, il y a aussi des associations. Vous citez justement il Palio di Bisignano. Bisignano, c'est un petit village dans la province de Cosenza où on a créé, mais
de zéro, à partir de rien.
À partir de rien, c'est-à-dire tout simplement pour évoquer un fait historique. Donc,
la visite de Charles Quint.
La visite de Charles Quint en 1535. Mais en fait, toute cette idée de reprendre une identité médiévale par des joutes, ou bien encore, nous avons l'exemple de Castelsilano, un petit village de la province de Crotone.
Où on a inventé une course des ânes, c'est ça?
Voilà, tout à fait. Et en fait, l'idée des institutions qui ont créé cette course, aidée par des associations locales, c'est que à partir de la tradition paysanne, donc s'il s'agit d'un village rural, on reprend cette tradition en mettant en valeur l'âne, donc le principal
compagnon
élément, voilà, de l'entreprise paysanne. Et on a créé une course des ânes, mais avec des intentions de promotion touristique, eh oui, qui parfois créent même des tensions, parce qu'il y a des moments festifs le soir avec, on invite des groupes musicaux qui parfois sont des représentants des jeunes engagés d'extrême gauche, tandis que dans ce milieu, vous voyez que
oui, ce n'est pas forcément... En particulier ceux qui chantent crotonnet, en expliquant qu'effectivement, il y a des traditions certes à crotonnet, mais il y a aussi tous ces gens qui meurent de cancer, oui, du poumon à cause de ces industries chimiques. Donc effectivement, ces groupes viennent un peu perturber ce bel agencement touristico-municipal qui a été voulu par les élus et par les amateurs de tourisme. Je voulais vous donner la parole à Laurent-Sébastien Fournier à Aix, puisque vous avez travaillé à la fois sur la réinvention de traditions locales en Provence, d'où vous êtes originaire, mais aussi puisque vous avez été nommé pendant un certain temps à l'Université de Nantes, à Nantes et plutôt en Bretagne en général, avec effectivement ces mêmes acteurs qui viennent d'être décrits par Alfonsina Bellio, des acteurs qui sont des acteurs du tourisme, des municipalités qui veulent voir ressurgir les traditions locales qui peut-être ont été oubliées depuis un certain temps, mais aussi des acteurs qui sont internationaux, puisque vous expliquez en particulier que la Bretagne est ouverte au monde entier et depuis très longtemps cherche justement à tisser des liens avec d'autres lieux européens et en particulier celtiques qui donc montreraient cette ouverture au monde et qui donneraient aux Bretons une image d'ouverture plus ancienne que celle qu'ils ont aujourd'hui peut-être.
Mais la question, c'est à qui appartient la tradition, et c'est ça qui, au fond, qui est complexe. Alors a priori, on pourrait se dire ça appartient à tout le monde, mais quand on regarde de près, c'est pas n'importe qui s'en réclame. Et en même temps, il y a un spectre très large politiquement. Déjà, Alfonsina commençait à évoquer cette question, et il est vrai que la tradition est un outil. Un outil stratégique qu'on peut mettre en jeu dans différentes formes de lutte, de réappropriation populaire du local, de l'histoire. Et là, on va trouver des gens très différents. On va trouver des contestataires plutôt des gens progressistes, et puis aussi des gens qui contestent au nom de la contre-révolution, quoi, des conservateurs. Mmh. Donc ça c'est quelque chose qu'on va retrouver dans les différents contextes, hein, que ce soit pour le cas pour les enquêtes que j'ai menées, que ce soit en Provence ou en Bretagne. Mais après, les discours traditionnalistes régionaux ou régionalistes vont plus ou moins arriver à s'entendre avec les représentations régionales de l'État.
Ce qui est très frappant, c'est que, en vous lisant toutes et tous, c'est qu'il y a une sorte de juge de paix qui n'existait pas lorsque Hobsbawm et Ranger ont écrit leur livre sur l'invention des traditions, et peut-être même pas encore quand Daniel Fabre travaillait au tout début de ses travaux sur ces questions de tradition et de réinvention. C'est le juge de paix s'appelle aujourd'hui l'UNESCO. C'est l'inscription au patrimoine mondial immatériel de l'UNESCO, qui d'une certaine façon, que je retrouve un peu partout dans tous les articles que vous m'avez fournis, qui d'une certaine façon serait une sorte de juge suprême de ce qu'est une tradition. À partir du moment où on arrive à la faire inscrire ou on tente de la faire inscrire à l'UNESCO, eh bien c'est bon, elle est inscrite d'une certaine façon pour l'éternité, en l'occurrence Laurent-Sébastien Fournier.
Il faut pas, on peut pas dire ça quand même. Enfin, l'UNESCO, l'UNESCO fait un travail de valorisation du patrimoine culturel immatériel depuis 2003, qui a été, qui au départ s'adressait plutôt aux pays du Sud pour renverser un peu les équilibres en termes de valorisation patrimoniale, parce qu'il avait été dit que en Europe nous avions plus de monuments historiques et de beaux-arts, tandis que dans les pays du Sud, il y avait plus de formes traditionnelles qui pouvaient être valorisées. Après, dans les faits,
les pays européens s'en sont emparés.
Voilà, se sont emparés de la Convention du patrimoine culturel immatériel. Alors, si on regarde les choses du point de vue du terrain, c'est vrai, c'est un peu la course à l'échalote avec les gens qui cherchent à tout prix à faire labelliser leurs pratiques traditionnelles à l'UNESCO. Maintenant, il faudrait pas surinterpréter la vision que peut avoir une institution supra-étatique comme l'UNESCO de ces modes-là. Ouais.
Vous avez à côté de vous Chloé Rosati qui travaille sur Grasse. Ouais. Vous avez fait votre thèse sur l'identité d'une ville à travers ses représentations, en l'occurrence Chloé Rosati. Et vous avez bien montré dans votre travail que Grasse, à la fin du 19e siècle, n'avait pas grand-chose à voir avec l'image de Grasse que veulent promouvoir aujourd'hui, par exemple, les élus, qui veulent justement inscrire cette ville de Grasse au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Quand on se rendait à Grasse à la fin du 19e siècle, ça faisait partie du Grand Tour, ça faisait partie de l'amour des gens du Nord, et en particulier les Britanniques, pour la Riviera. Et évidemment, on allait plutôt vers une station climatique entre terre et mer, ou entre montagne et mer, que vers la capitale du parfum qu'elle est devenue depuis relativement récemment, expliquez-vous, Chloé Rosati.
Oui, tout à fait. Donc, en fait, l'image de Ville des Parfums de Grasse s'est construite peu à peu, hein, au fil du temps. Et puisqu'il y a eu donc une industrialisation autour du parfum à partir de 1850 qui a été très importante et qui a permis donc à la ville de se faire connaître au travers des parfums. Et elle est donc c'est quelque chose, la parfumerie, qui fait aujourd'hui encore partie du paysage et de la manière dont la ville est présentée aux autres et aux membres extérieurs. Donc c'est encore une activité qui est au premier plan et qui est très active. Et elle permet de donner une identité au lieu. Et ainsi, il y a un groupe donc qui s'est constitué il y a quelques années autour justement de la parfumerie, qui réunit à la fois des habitants, des professionnels donc de cette industrie, mais aussi des professionnels du tourisme, des parfumeries touristiques. Mmh. Et accompagné de pouvoirs politiques et des institutions muséales, etc., qui permet de créer un dossier pour une inscription à l'UNESCO et qui entraîne aussi un renouveau de pratiques telles qu'on voit de nouveau émerger des champs de fleurs qui avaient disparu. On a de nouveau des champs avec de la rose centifolia qui est cultivée de manière beaucoup plus massive qu'il y a quelques années. Des centons provençaux ont été aussi créé justement pour présenter le métier de la parfumerie et pour montrer que cette identité est aussi ancrée dans le territoire et que donc elle est justifiée.
Et on y vend de la lavande, j'imagine.
On y vend des sachets de lavande, effectivement. Bon, après, la lavande est cultivée un petit peu plus dans les Alpes, les Alpilles plus particulièrement. Voilà, Grasse, c'est un petit peu trop bas en altitude pour la lavande.
Vous expliquez en particulier, Chloé Rosati, que ce terme de patrimoine immatériel a remplacé, en tout cas en France, souvent le terme de folklore que l'on n'aimait pas trop et que d'une certaine façon avait été un petit peu entaché par l'usage politique qu'en avait fait le régime de Vichy pendant la Seconde Guerre mondiale, accusé de renforcer le nationalisme en particulier, et qu'effectivement ce terme de patrimoine immatériel permettait d'une certaine façon de rendre positive une notion qui avait été plutôt traitée comme négative depuis quelques années.
Tout à fait, oui. On arrive à se détacher ainsi, effectivement, de toute cette histoire du folklorisme en France, et pour pouvoir de nouveau travailler sur les traditions locales et toutes ces expressions culturelles vivantes, choses sur lesquelles on s'était un petit peu détaché ces dernières années, justement, pour éviter de tomber dans les travers du folklorisme avec tout son historique et tout son passé national.
Émilie Mariaroy, vous qui êtes spécialiste de l'Islande, de ce moteur qui est le tourisme, qui a été décrit par tous les autres intervenants, en l'occurrence dans la patrimonialisation, dans la réinvention de traditions. Ces touristes, on ne leur veut pas forcément beaucoup de bien en Islande, parce qu'on leur offre de manger du requin faisandé, donc qui est un plat supposé traditionnel, mais sur lequel vous avez travaillé, et qui est donc un plat extrêmement goûteux, pourrait-on dire, très particulier, à l'odeur visiblement très très forte et très difficile. Et on considère en Islande que un touriste qui vient en Islande, on ne peut pas ne pas lui faire manger ceci, même si peut-être les Islandais eux-mêmes n'en consomment pas tant que ça au bout du compte, Émilie Mariaroy.
Oui, en effet. Alors, le requin faisandé a vraiment la cote. Alors, je veux juste souligner que le tourisme en Islande s'est énormément développé depuis les années 2000 et que les Islandais considèrent finalement que le bon côté du tourisme, parce qu'il n'y a pas que des bons côtés, du fait de l'impact aussi environnemental de la masse touristique, eh bien, il n'y a pas de quota sur les touristes. Donc, ça permet justement au pays de développer une activité économique tout à fait intéressante. Alors, pour en venir au requin, le requin, effectivement, n'a pas toujours eu ses lettres de noblesse. Hein, il a toujours été là. C'était ce qu'on donnait à manger, mais ce n'est pas véritablement une nourriture aux mendiants. Mmh. Donc, c'était quand même un produit vraiment de très basse extraction et c'était pas du tout consommé de manière quotidienne et ça ne l'est toujours pas aujourd'hui. Il n'empêche que, à l'heure actuelle, effectivement, donc il y a quelques producteurs de requins faisandés en Islande qui ont pignon sur rue. Ils ne sont pas très nombreux, ce sont des hommes plutôt âgés. Et effectivement, les touristes à la fois sont attirés, mais en même temps rebutés par le goût et l'odeur du requin. Hein, c'est un rite de passage, en fait, en quelque sorte, pour les touristes. Alors, ça amuse beaucoup les guides touristiques, hein, quand ils voient les visages se décomposer dans leur groupe. Vraiment, ça suscite les réactions les plus diverses. Mais effectivement, c'est un mets faisandé, hein, comme d'autres. Cela montre aussi la capacité des Islandais à conserver la nourriture maritime, hein, dont la conservation, avant qu'il y ait du sel, eh bien, on faisandait, on faisait sécher, et ça permet de conserver des aliments.
Oui, et c'est une façon aussi pour les Islandais de rappeler qu'il y avait une sorte de pauvreté aristocratique, dites-vous, dans cette Islande ancienne et qu'on pouvait transformer la chair toxique, parce que la chair du requin au naturel est une chair toxique, en mets comestibles. Et vous dites qu'on fait que c'était une sorte d'hommage à cette pauvreté, à ses ancêtres qui étaient contraints justement de se nourrir à partir de ce requin faisandé. Donc il y a là un lien. Oui. Imaginaire à ce passé lointain.
Oui, absolument. Je pense qu'il y a quelque chose qui tient à une forme d'ambiguïté ou d'ambivalence à ce rapport au poisson, à ce rapport à l'histoire maritime du pays. Hein, c'est vrai que ça a été un pays très pauvre pendant des siècles. Et à l'heure actuelle, la consommation de requins, c'est une manière de célébrer aussi ses origines, ce passé extrêmement pauvre, extrêmement rude, et de se rappeler aussi que tout n'a pas été que gloire, et il y a aussi eu de longues périodes d'austérité. Et donc, c'est un mets qui est consommé donc traditionnellement au mois de janvier, en plein hiver, au cours de banquets. Alors, il y a une consommation par les Islandais de requins au mois de janvier, justement, en dehors de la période touristique. Et par ailleurs, plutôt pendant la période estivale, une consommation par les touristes, cette fois de requins faisandés. Donc, vous voyez que finalement, cette tradition, eh bien, selon que l'on est Islandais ou étranger, eh bien, on la pratique différemment.
Sébastien Fournier, ce jeu, pourrait-on dire, sur l'invention et la réinvention permanente des traditions, c'est un jeu sur le lointain dans le passé et le proche donc dans le présent, mais c'est aussi un jeu sur le lointain dans la géographie, dans l'espace, et sur le proche, il y a toujours ce jeu, parce que les touristes viennent d'ailleurs, ils veulent découvrir des traditions, ils les remportent chez eux, même si peut-être ils ne mangent pas toujours ce qu'ils ramènent de leur voyage, mais il y a cette dimension à la fois géographique, pourrait-on dire, et historique, temporel en tous les cas, Laurent Sébastien Fournier.
Oui, bien sûr. Puis alors, il faut, pour qu'une tradition inventée ait du succès, il faut qu'elle puisse se mettre à la portée de son public. Donc, je dirais qu'une invention a d'autant plus de chances de fonctionner et d'attirer du monde qu'elle est immédiatement compréhensible. Et là, dans un monde tel que le nôtre, qui est globalisé, qui est médiatisé, il y a des jeux d'attente mutuelle comme ça qui sont tout à fait intéressants à étudier entre ce que peuvent proposer des autochtones nécessairement déjà tournés vers le monde par les médias, et puis ce que peuvent appréhender des touristes de passage dans le temps court d'un séjour de loisirs où ils vont nécessairement aller au plus évident. C'est là que se pose tout le problème de la dialectique entre les traditions inventées et puis ce qu'on pourrait définir comme une authenticité locale ou une authenticité culturelle.
Mais une authenticité qui est toujours en mouvement d'une certaine façon, elle n'est jamais figée en l'occurrence.
qui est toujours en mouvement et qui se règle par la pratique, finalement. Ouais. Parce que dans ces jeux, dans ces fêtes, dans ces reconstitutions historiques, il y a toujours de la performance. On invite les gens à participer. Il y a de la participation. Il y a du sensible. Il y a les sens qui sont mobilisés. Hein. Émilie Maria Roy parlait avant moi du goût fort, sans doute, hein, de ce requin faisandé. Donc on est obligé de passer par une appréhension corporelle hein, de ces réalités locales. Et c'est ça qui fonde leur efficacité, sans doute. Et
Chloé Rosati, la différence, c'est qu'à Grasse, théoriquement, les odeurs sont meilleures que celles du requin faisandé, n'est-ce pas?
Ben, on l'espère, en tout cas.
Alphonsine Abellio, ces questions, vous les avez travaillées à propos de la Calabre, dont vous êtes originaire, mais sur laquelle vous travaillez en tant que spécialiste, justement, de cette anthropologie, de ces réinventions anthropologiques. Ce qui est intéressant dans la Calabre, dites-vous, c'est qu'on va choisir, évidemment, dans le passé, ce qui peut intéresser. On ne sait pas très bien quoi faire, par exemple, de ces communautés grecques ou de ces communautés albanaises qui se trouvent en Calabre, sont-elles valorisées au même titre que les petits villages dont vous nous parliez tout à l'heure, que ce soit Bisignano ou Castelsinano?
Tout à fait. En fait, à propos des communautés hellénophones, donc des parlants en langue grecque, il y a un exemple très intéressant par rapport à un village qui s'appelle Bova, en grec c'est Voua, qui a vu un mouvement récent dans les dernières 15 années de réinvention d'une tradition locale qui avait tout à fait disparu. D'un côté, il y a une association de jeunes qui ont repris la langue grecque parlée par leurs grands-parents. Mmh. Et en fait, c'était des jeunes étudiants des lycées classiques. Dans les lycées classiques italiens, on étudie le grec ancien, qui se sont aperçus d'apprendre à l'école la langue parlée par leurs grands-parents. Donc, à partir de ça, ils ont fondé une association qui s'appelle Yalotuvua et qui, avec le but de reprendre la tradition linguistique, mais aussi les vieilles traditions. Et en fait, ils ont repris une tradition qui s'appelle les pupazze. Les pupazze, le mot italien signifie un peu poupée, mais aussi marionnette. En fait, il s'agit de statues végétales féminines qui sont portées en procession le dimanche de rameaux. Et en fait, à côté des rameaux qui normalement sont constitués par des branches d'olivier, on a des véritables statues végétales anthropomorphes en forme féminine appelées pupazze, réalisées à partir elles aussi de rameaux d'olivier, mais avec des décorations des prémices locales de fruits, de fleurs, et qui au passé, donc dans la tradition agropastorale, était préparé par les jeunes hommes pour les offrir à leurs fiancés. Donc c'était un échange rituel. Et à la fin de la messe de rameau, les pupazze étaient démembrées et partagées par toute la communauté. Maintenant, cette tradition avait presque disparu. C'était tellement rare que des familles préparent ça. Mais là, l'association Yalotuvua, depuis 5 ans, a repris cette tradition et en a fait un événement qui est devenu une occasion importante touristique, donc avec une publicité, des affiches, mais en passant par la reprise d'un passé grec. Parce qu'en fait, dans ces figures féminines, les acteurs locaux voient une continuité avec le culte de Déméter et Perséphone, les mères et les filles, tout à fait. Et donc, il y a un bras de fer en ce moment avec l'Église, parce que l'Église calabraise de l'autre côté, qui se veut dépositaire de la parole, avec un majuscule, en fait, est en train de contrôler de manière minutieuse toute expression des pratiques cultuelles publiques. Et donc, par rapport à la fête des rameaux, les pupazze, à un moment donné, l'évêque du diocèse a décidé qu'il ne s'agissait pas de rameaux, donc c'était pas la peine de les amener à l'église en procession pour le bénir. Et vous voyez que c'est vraiment cette forme de retraditionnalisation calabraise. C'est un mouvement à la fois centripète et centrifuge, parce qu'il y a des autorités, les autorités touristiques, les autorités municipales qui essaient de reprendre certains éléments de la tradition qui ont un certain intérêt à, même dans le marketing touristique. Mais de l'autre côté, il y a les autorités ecclésiales qui essaient de ramener tout le monde à une conduite et à une pureté qui serait la pureté évangélique, qui n'a rien à voir donc avec la tradition. Il y a toujours des combats entre les associations locales et la communauté des évêques.
Chloé Rosati, vous avez assisté récemment à un grand colloque international entre anthropologues et ethnologues de l'Est de l'Europe et de l'Ouest de l'Europe, et vous expliquiez dans un article que vous m'avez transmis combien il y avait des différences entre les uns et les autres, et en particulier liées à des histoires nationales, pourrait-on dire, qui n'ont pas été les mêmes pendant au moins 50 ou 60 ans, c'est-à-dire pendant la période donc où une partie de l'Europe centrale et orientale était communiste, et peut-être aussi de la façon dont on envisageait ces traditions anciennes dans ces pays-là et dans les pays occidentaux. Et vous dites qu'il y a toujours des discussions, des tensions même parfois entre anthropologues et ethnologues qui viennent de ces pays différents, parce qu'il y a des approches différentes de cette question, alors folklorique, patrimoine immatériel, tradition, je ne sais comment on peut appeler ça. Vous pouvez nous dire brièvement ce que vous avez ressenti de tout cela ?
Alors effectivement, on a tous une tradition nationale hein, dans la manière dont on est formé et dans la manière dont on a appris l'anthropologie. Et l'Europe de l'Est, c'est vrai qu'elle s'est formée aussi, son ethnologie a eu beaucoup d'importance à l'issue de la chute du bloc de l'URSS et du bloc communiste, et qui a permis aussi de voir émerger des constructions de nationalisme, pour lesquelles la France était détachée à un moment donné, justement pour éviter de tomber dans ces travers, où l'a envisagé plutôt sous l'angle de l'anthropologie politique, mais de manière tout à fait différente de ce qui s'est fait, de ce qui a été fait par nos collègues, en tout cas de l'Europe de l'Est. Et on est souvent frappé, quand on discute avec eux, de voir qu'effectivement, on travaille souvent sur les mêmes sujets, qu'on les aborde absolument pas de la même manière et qu'on est surtout pas forcément au fait de ce que font les uns les autres.
Vous voulez dire parfois que certains pays valorise justement cette réinvention de tradition, mais de façon extrêmement positive, voire positiviste, alors que il y a toujours chez nous un regard un peu critique par rapport à cette question-là. Et le travail des ethnologues et des anthropologues, c'est justement d'établir de la distance entre ce que l'on voit sur ces terrains et la réalité pensée ou vécue et le travail du chercheur en l'occurrence.
Tout à fait. C'est vrai qu'en France, surtout comme vous l'aviez dit tout à l'heure, surtout dans les années 80, il y a eu beaucoup de travaux qui ont été faits sur la tradition et les réinventions des traditions. Et donc, du coup, on a eu beaucoup de recul. Nos collègues de l'Est, eux, ont appréhendé les traditions comme ce qu'elles sont, hein, des expressions de l'identité locale et nationale. Et à ce sens-là, ils ont travaillé dessus de manière totalement différente, avec tout leur passé, etc., et tout l'enseignement universitaire qu'ils peuvent avoir sur ce sujet.
Un dernier mot très bref, Laurent Sébastien Fournier, sur ce point.
Oui, les collègues des pays de l'Est, alors, se sont engouffrés dans l'étude des traditions depuis la transition post-communiste, post-soviétique. Ce qui est intéressant en ce moment, c'est de voir qu'ils relisent l'histoire de l'anthropologie à la lumière des nouvelles traditions d'études qu'ils ont développées. Et j'ai plusieurs collègues des pays de l'Est me disent attention au colonialisme méthodologique, au colonialisme théorique. Il faut absolument réhabiliter les études locales qui ont été faites sur le folklore croate, sur le folklore estonien, sur le folklore balte, etc., pour ne pas survaloriser des approches qui seraient uniquement occidentalo-centrées ou d'anthropologie à l'anglo-saxonne. Et ça, c'est tout à fait important et intéressant de voir comment autour de la notion de tradition intellectuelle aussi que Chloé Rosati a apporté. Autour de cette notion de tradition intellectuelle, il y a des débats et finalement on invente aussi nos traditions d'études.
Merci Laurent-Sébastien Fournier et Chloé Rosati, vous étiez en duplex depuis les studios d'Aix donc de Radio France, et on remercie donc ceux qui vous ont accueillis. Alphonsine Abellio, vous étiez en duplex depuis Nantes, et là aussi nous remercions nos collègues de Nantes de vous avoir accueillis, et merci à vous Émilie Marien-Roy d'être venue avec nous. Et on va conclure, puisque nous sommes dans une série de France Culture, une journée de France Culture consacrée à la défense des livres, des libraires, du travail acharné des libraires, avec vous Clio Mavroidakos, bonjour. Vous êtes donc rédactrice en chef de la revue Desmos, le lien que connaissent tous les amateurs de Grèce en France. Vous avez aussi une librairie que vous tenez, qui a été fondée par votre père, donc rue Vandamme à Paris. Une librairie qui, évidemment, met en avant le travail et des écrivains grecs aujourd'hui. Vous êtes également éditrice.
Oui, la librairie est née en 1983. En 1983, rue Vandamme.
Oui.
Et elle est née d'un désir d'avoir un lieu de rencontre pour tous les Grecs qui sont restés après la fin de la dictature des colonels, puisqu'ils ont été nombreux à venir en France et une bonne partie est repartie. Mais ceux qui sont restés ont tissé des liens très forts avec beaucoup de Français qui les ont assez bien accueillis. Et donc la librairie s'est ouverte avec tout de suite beaucoup d'expositions, de présentations de livres, de signatures, des cours de grec aussi pour tous les Français qui avaient envie de maintenir un niveau pour communiquer l'été quand ils retournaient en Grèce. Et à partir de 96-17, la librairie a renoué avec la tradition des libraires-éditeurs pour faire connaître toujours la Grèce contemporaine, actuelle, via une belle liste de grands poètes contemporains qui étaient un peu moins connus et très peu traduits, puisqu'en France on connaissait très bien Séphéris, Cavafis,
Ritsos,
Elitis, voilà la tétrade des grands aînés. Et la revue, dans la foulée, vers l'an 2000, est arrivée pour avoir un champ encore plus large sur le plan éditorial.
Et donc, vous écoutiez avec beaucoup d'intérêt, je voyais la discussion sur la réinvention de tradition, vous connaissez cela forcément, parce que vous avez la chance d'avoir des grandes fêtes qui se déroulent en plein été, vous, parce que les Panaïa ont souvent lieu en plein été, donc au mois d'août en particulier. Mais effectivement, ces questions-là sont des questions qui sont essentielles. Vous avez importé des traditions d'Asie mineure à partir du moment de la grande catastrophe, c'est-à-dire du déplacement des populations entre la Turquie actuelle et la Grèce en 1922. Et ces traditions sont devenues des traditions locales, des traditions grecques en l'occurrence.
Bien sûr, elles ont irrigué la culture grecque. D'ailleurs, dans le dernier numéro qui est sous presse de la revue
Desmos,
qui est consacré au, on l'a intitulé Les naufragés de l'histoire, et il est consacré aux migrants et aux réfugiés, avec un point de vue assez actuel, mais dans notre partie de texte en traduction inédite, on a voulu présenter un témoignage des années 60 d'une femme qui a vécu dans la petite enfance la catastrophe d'Asie mineure, et qui raconte cet arrachement juste avant le traité de Lausanne, en fait, depuis la sidération initiale jusqu'à finalement au moment où la famille comprend que là vraiment il faut partir, et l'arrivée en Grèce avec le choc que ça correspond, puisque ces réfugiés sont arrivés dans des conditions assez difficiles.
Et donc, tenir une librairie, tenir son rôle d'éditeur de revues et de livres, en l'occurrence, est facile, difficile dans les conditions actuelles. On va parler de cela toute la journée sur France Culture, mais vous êtes extrêmement spécialisé. C'était une libraire de niche, pourrait-on dire.
Totalement, une petite niche, mais assez accueillante.
allez, je confirme.
Si. La librairie existe et vit toujours par sa pluralité, c'est-à-dire qu'il y a toujours des cours de grec jusqu'à même des cours de traduction littéraire qui sont, puisqu'on est une petite équipe assez polyvalente. Isabelle Loupas, par exemple, donne ce cours de traduction littéraire, est traductrice, s'occupe de nos éditions de prose. Moi-même, je m'occupe de la revue et d'une nouvelle collection de poésie consacrée aux très jeunes poètes grecs, enfin très contemporains, qui sont extrêmement intéressants. La collection s'appelle Desmos Poésie. Nous avons une jeune libraire qui tient la librairie et donc au travers de signatures, de participation à des salons, au marché de la poésie, au salon du livre, à la diffusion de la revue, tout ça tient. Mais c'est dur. Et j'encourage vos auditeurs à se rendre pas forcément que chez les libraires de niche, mais aussi les libraires généralistes, qui sont vraiment des résistants aujourd'hui, et dont il faut saluer le travail, notamment pour diffuser de petits éditeurs comme nous.
Oui, et des résistants, effectivement, à cette mondialisation dont on a parlé depuis le début, qui a beaucoup de vertus, mais qui a aussi parfois quelques inconvénients, en particulier lorsqu'elle crée les GAFA, les grosses sociétés américaines, et en particulier une grosse société qui s'appelle Amazon, pour ne pas la citer, qui, effectivement, détruit en partie ce tissu extrêmement fin des librairies locales qui permettent, justement, à la fois de l'édition, de la transmission et du travail avec les lecteurs. C'est aussi cela qui est important.
C'est avant tout ça, le lien avec les lecteurs. Oui.
Merci beaucoup Clio Mavroidakos. Je rappelle que votre librairie s'appelle Desmos et qu'elle se trouve rue Vandamme à Paris pour ceux qui vivent à Paris ou qui s'y rendraient bientôt, qu'ils n'hésitent pas à passer à la porte, surtout s'ils reviennent ou s'ils partent en Grèce. Vous y trouverez effectivement beaucoup de choses qui peuvent vous y intéresser, en particulier cette revue Desmos, le lien qui a été fondée, dites-vous, en 1983, c'est ça ?
La revue en 2000.
En 2000. Il est 9h57 sur France Culture et vous le savez, nous avons donc tous les jours, pendant toute la journée d'aujourd'hui, des producteurs et des productrices de France Culture qui nous donnent des conseils de lecture. Et donc dans cette journée pour le livre, il est temps d'écouter Frédéric Worms.
France Culture aime le livre. France Culture aime le livre et lui consacre une journée avant l'été. Vie de l'édition, chiffres de la consommation, nouveaux usages, prescriptions de libraires et d'auteurs. Pour le livre, aujourd'hui sur France Culture, à suivre sur Facebook, Twitter et franceculture.fr.
Je purge ma peine dans une prison réelle, tu attends dans la prison invisible du cœur. Ton amour est un rayon de soleil qui saute par-dessus les hauts murs et s'infiltre à travers les barreaux pour caresser chaque centimètre de ma peau, réchauffer chacune de mes cellules. Je suis un rocher dans le monde sauvage, fouetté par un terrible orage, si froid qu'on ne peut le toucher, mais mon amour est solide, aigu. Il peut traverser tous les obstacles. Même si j'étais réduit en poussière, je t'embrasserai avec mes cendres. Ce texte magnifique que je viens de lire a été écrit par un prix Nobel de la paix qui aurait pu et dû peut-être aussi être un prix Nobel de littérature. Liu Xiaobo, qu'on connaît comme intellectuel dissident, écrivain de la Charte 08, inspirée de celle de Prague en 1977, qui a été emprisonné de ce fait et qu'on a sorti de sa prison sans lui permettre de recevoir son prix Nobel, parce que le cancer qu'il y a attrapé le conduit à une mort immédiate. Mais Liu Xiaobo, qui est d'abord et avant tout un écrivain, dans l'œuvre duquel je vous invite à vous replonger. Deux recueils magnifiques ont été publiés en français dans la traduction de Jean-Philippe Béja, « La philosophie du porc » et « Vivre dans la vérité ». La philosophie du porc, PORC, c'est évidemment des textes théoriques, et ça nous importe beaucoup, c'est-à-dire la manière dont le capitalisme le plus déchaîné et la dictature la plus terrible convergent dans certaines pratiques. Mais c'est écrit avec les armes de la littérature et de la pensée, et les armes du style. La prose devient parfois poétique et même poème. Des vers viennent s'intercaler dans des essais de critique du pouvoir chinois. Il adresse la même critique quand il passe quelques années à New York au pouvoir capitaliste. Il dénonce les mêmes dérives avec la même exigence de la vérité. Cette vérité qui donne le titre du second recueil qui a été publié également dans la collection Bleu de Chine chez Gallimard, où vous trouverez aussi des essais avec la même prose splendide et des poèmes à la fin, dont encore un qui est dédié à sa femme, à ma femme, cette épouse qui a évidemment souffert comme lui de cette détention, qui est qui fait partie des victimes de la dictature, au même titre que ce très grand écrivain qui a toujours défendu la littérature dans son exigence de vérité comme ressource pour la politique et pour la vie humaine.
Merci Frédéric Worms pour avoir parlé justement de Liu Xiaobo et de son œuvre et de ses poèmes toute la journée, vous le savez, pour le livre sur France Culture, d'autres émissions, mais également d'autres producteurs vous parleront de livres qui les marquent et qui les ont marqués. Cette émission a été préparée par Aurélie Marseille, Francesca Fossati, Bruno Gagnard nous a accompagné à la technique et Séverine Cassard à la réalisation.